parti.
C'est que comment on...
Vas-y, commence.
Bah, oui, donc, interview de Florence Larose et de Virginie Jourdain, respectivement membres du CA et coordonnatrices des expositions de la Centrale Gallery Powerhouse, enregistrée à Montréal en mars 2012. Florence Larose.
J'ai fait un deck technique donc, au collège en post-production. Après, je suis allée faire un bac en... Ça s'appelle Intermediate Cyber Arts, donc c'est un programme d'art visuel mais axé sur les technologies. Et après ça, j'ai travaillé un peu dans le milieu. J'étais bénévole à la centrale, puis j'ai fait un stage, et puis il y avait une ouverture sur la CA, donc ça s'est fait assez rapidement, mais je me suis retrouvée à siéger au CA de la centrale. Je m'intéressais beaucoup au féminisme. Et j'avais le goût, en fait, pour moi j'ai vu ça comme une occasion d'en apprendre plus en même temps. Je suis pas arrivée là en disant j'ai plein d'expérience, prenez-moi. C'était vraiment une question pour moi de faire un peu le pont entre ces deux pôles d'intérêt là que j'avais, qui était l'art et le féminisme. Et mais c'est quand même été une expérience où j'ai vraiment beaucoup appris. Surtout j'ai organisé des événements, j'ai travaillé un peu avec les archives, les sites web. C'est là que j'ai été familiarisée avec la structure du centre d'artistes autogéré, qui est assez caractéristique, je pense, au Québec, en tout cas qui a une présence assez forte dans le milieu des arts. J'ai une pratique de vidéo et de performance. J'essaie toujours de faire des trucs qui peuvent être pris à deux niveaux. Si tu veux le prendre au premier niveau, si t'as pas nécessairement la capacité, mais l'envie, ou si t'as pas envie de lire plus loin. C'est pour ça que je travaille beaucoup aussi avec... qui réfère à la culture populaire, par exemple, parce que ça peut être tout simplement divertissant sans causer de tort, si on veut. L'image des femmes, par exemple, si je fais un truc qui est féministe, mais qui, si tu as envie de faire de prendre ça un peu plus loin, puis de faire l'effort de le lire au deuxième niveau, ben c'est là que ça peut t'informer, puis poser des questions. Mais j'aime bien que ça puisse être compris également, que ça soit accessible, en fait. Donc en passant par des médiums qui sont compris de façon presque intuitive, vu le conditionnement, par exemple, justement, avec la culture populaire, la musique. Je travaille beaucoup avec... J'aime le karaoké. Parce que je pense que c'est quelque chose qui est... Sans, je veux dire que c'est universel, mais dans le sens où c'est quelque chose qu'on a appris à comprendre émotionnellement, puis de façon un peu irrationnelle. Donc ça, même si tu ne veux pas être touché, t'es tellement conditionné à l'absorber que à quelque part le deuxième niveau vient comme un peu inconsciemment. Donc si tu prends ça, puis en plus tu le mets dans un contexte où t'es pas en mode ok, c'est de l'art, je vais pas interagir de la même façon. Si tu l'acceptes de la même façon que t'acceptes que tu regardes la télé ou que t'écoutes la radio, je pense que c'est là que ça peut avoir un impact qui est plus important que dans un contexte traditionnel de galerie, par exemple. Je pense que tu peux avoir une œuvre qui n'est pas du tout de façon explicite militante ou engagée à la base, mais si tu la mets dans un contexte où elle va être vue, par exemple, par un public qui n'irait pas nécessairement dans une galerie ou dans un centre d'artistes, ben ça peut insuffler, si on veut, cette notion de militantisme à l'œuvre qui, dans un tout autre contexte, dans le white cube, dans le cube blanc, il qui n'aurait pas cette connotation-là, si on veut.
Une structure autogérée.
Ce qu'on entend par centre d'artistes autogérés, en fait, c'est la structure. Généralement, il y a des employés au centre, évidemment, mais il y a aussi un conseil d'administration, donc c'est un organisme à but non lucratif. Et en fait, le pouvoir revient aux membres, un peu comme le même principe, un peu comme une coopérative. Donc, les membres se regroupent autour du mandat du centre. Donc, généralement, les membres sont des artistes ou des gens qui sont assez proches du milieu des arts visuels ou toute autre forme d'art. Et puis, ça marche. Ouais, CA, une assemblée générale, tout est voté par les membres. Il y a également un regroupement qui s'occupe de faire le lien entre les centres d'artistes autogérés. On est élu par l'assemblée générale. Pour se présenter, il faut... en fait, en cours d'année, on assiste en tant qu'observatrice à une séance du CA. Et puis après, on est invité à remettre une lettre d'intention avec un curriculum vitae. Puis c'est les membres du CA qui votent pour accepter la nouvelle membre. Et puis à l'Assemblée Générale, c'est entériné par l'ensemble des groupes. Il y a un siège qui est réservé au sein du CA pour une membre travailleuse, qu'on appelle, qui a le même poids que les autres, c'est évidemment. Puis généralement, c'est la coordonnatrice à l'administration, parce que c'est assez relié à sa tâche aussi, donc préparer les CA, tout ça. Mais ça pourrait être ouvert aussi à une autre travailleuse. Les autres travailleuses assistent également au CA. Ce qui est intéressant aussi avec la centrale, ce qui n'est pas nécessairement le cas pour les autres centres d'artistes autogérés, c'est qu'on a adopté une approche déhierarchisée. Même dans certains centres d'artistes autogérés, il y a quand même une position de direction, il peut y avoir un assistant, une assistante. Donc il y a quand même une certaine hiérarchie dans la plupart des autres centres. À la centrale, ça fait peut-être 3 ans ou 4 ans, où le poste d'assistante a été aboli, si on veut, et transformé en ce que Virginie fait, qui est la coordination des expositions.
Le financement.
On est subventionné par 3 paliers de gouvernement, au fédéral, au provincial, puis au municipal. Mais de plus en plus, en fait, le contexte canadien fait qu'on doit chercher des revenus autonomes, donc par levée de fonds, dont commandite, etc. Puis ça devient problématique pour un centre qui a un positionnement politique, parce que ça peut être plus facile, peut-être. En fait, c'est de tracer les limites, puis de s'entendre au CA, puis avec les travailleurs sur qu'est-ce qui est, jusqu'où on veut accepter, par exemple, les commandites ou des dons privés sans compromettre notre mandat et nos positions politiques. Donc c'est là que ça devient un peu plus difficile pour des centres qui ont une mission comme ça.
Historique et évolution du mandat.
À ma connaissance, la centrale a été fondée en 1973 par un groupe de féministes. Je ne suis pas certaine des origines. Dans les années 70, je pense que les priorités et puis les questions phares du mouvement féministe étaient assez différentes de celles d'aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un plus grand éventail de questionnements. Il y a place pour plus grande variété de discours également. Puis même au sein du CA, de l'équipe, tout ça, il y a des visions différentes. C'est pas... Puis je pense que c'est ça qui est riche aussi. Là. On n'a pas qu'une seule direction quand on parle de féminisme. Et on met le féminisme au pluriel de toute façon. Le lieu physique a bougé aussi à 2 ou 3 reprises, je pense. Mais en 2007, je crois, ou relativement récemment, on a changé notre mandat pour inclure des perspectives queer et des notions de genre dans la mission qu'on se donne et dans les questionnements qui animent le centre. Ça, je pense que c'est un virage assez intéressant puis assez important.
Quelles sont les missions de la centrale?
C'est de diffuser l'art qui porte un discours féministe. On s'éloigne un peu aussi, on ne dit plus de l'art qui est fait par des femmes nécessairement, parce qu'on remet en question la notion même de genre et de femme par conséquent, mais qu'il y a des questionnements féministes. On essaie aussi de... En fait, on s'intéresse beaucoup aux formes d'art qui sont sous-représentées, aux artistes qui sont sous-représentés aussi, qui n'auraient pas nécessairement la même vitrine dans d'autres centres d'artistes ou dans des galeries commerciales, dans des musées, etc. Sous-représentés, mais qui s'inscrivent quand même dans... pas nécessairement dans un courant, mais dans un contexte plus large qui va au-delà du marché de l'art, si on veut, en fait. Femmes de l'article, ça, c'est des artistes inuits. C'est un super bel exemple. Ouais, c'est pas nécessairement leur pratique qui est sous-représentée, parce que c'est surtout du dessin, mais en tant qu'artiste s'inscrivant, je dirais, malgré elle, dans une minorité, je pense que ça fait partie de la mission vraiment de la centrale de les soutenir au sens de vraiment de diffuser leur art. Puis en fait, je pense que ça a été assez populaire. Il y a eu des articles qui ont été écrits dans les journaux, on en a parlé, ce qui est quand même bien. Donc si la centrale peut servir de son histoire puis son autorité, si on veut, entre guillemets, dans le milieu pour mettre de l'avant ces pratiques-là, ces artistes-là, mais je pense que ça fait partie intégrante de la mission. Il y a également un projet pédagogique, peut-être que Virginie, ça pourrait vous en parler plus.
Virginie Jourdain.
Ce qui s'est fait avec le Cégep, c'est un projet qui s'appelle le Plan Q. C'est en lien avec un syndicat étudiant, Politique Q. Et en fait, c'est pour pallier un manque, en fait, il y a eu un changement. Ben, ça, peut-être tu pourras plus en parler, Florence, mais il n'y a plus de cours sur les questions de sexualité dans les cégeps. Et l'idée, c'était de pallier à ce manque-là et de pouvoir donner des outils militants, politiques, et axés aussi sur des formes de production culturelle pour parler des questions de sexualité, mais vraiment d'un point de vue assez large, d'un point de vue politique, militant, féministe, avec différents outils, et c'est de proposer donc au public des cégeps différents ateliers. Partir de vidéos avec des vidéastes, membres de la centrale. Donc les vidéos, c'est un support, donc c'est un support artistique. On les a sélectionnés pour que ça soulève différentes problématiques et ouvrir une discussion avec le public des cégeps. Ce qu'il y a de bien dans ce projet, c'est que ce n'est pas un projet pédagogique un peu comme on peut l'imaginer, genre en s'adaptant à un public de jeunes. Donc on va parler de sexualité, mais vraiment de manière très consensuelle. Ce n'est pas du tout consensuel et c'est vraiment politique. Et c'est vraiment prendre le public des cégeps, qui est comme un public relativement jeune, mais le considérer comme apte à s'engager avec des outils politiques pour envisager les questions de la sexualité, enfin des sexualités, mais d'une manière politique. Donc c'est vraiment comme pas prendre le truc à l'inverse, genre on va parler de la sexualité avec des outils scientifiques, et puis parler, je sais pas, de pratique, mais d'un point de vue très pédagogique, mais partir d'un point de vue politique pour parler des questions de consentement, du rapport à soi, du rapport au corps, avec des outils féministes. C'est comme vraiment ambitieux et vraiment pas consensuel comme projet. Et puis ça donne des outils comme vraiment super concrets, genre montrer de la post-porn à des adultes relativement jeunes. C'est comme dans des cégeps, dans des institutions, c'est quand même assez ambitieux. Puis c'est ça. Donc la centrale, c'est comme elle propose des outils culturels, des outils artistiques, mais qui sont comme mis au même niveau que d'autres outils politiques. Du coup, il n'y a pas de différence entre l'art et des productions culturelles et des productions politiques. C'est tout qui forme un tout et un tout cohérent. Et c'est cette cohérence qui fait que du coup, la centrale participe à un projet d'éducation populaire, politique, engagée. L'art, enfin en tout cas les pratiques artistiques, peuvent vraiment contribuer à une nouvelle lecture de, là en l'occurrence, du rapport à soi, du rapport au corps, de la sexualité, aux politiques, et une nouvelle lecture du féminisme, mais pour un truc très concret qui est sa vie affective, sexuelle, militante, blablabla. Donc c'est un truc très concret puis assez efficace.
Comment sont effectués les choix de la programmation ?
Au niveau de la structure, en fait, il y a le CA, puis après il y a des comités qui sont formés soit de membres du CA, soit de membres qui sont... en fait, il faut être invité pour être le comité de programmation par le comité. Et puis la coordonnatrice de la programmation siège évidemment sur ce comité-là. Il y a deux appels de dossiers par année. Donc tout le monde... indépendamment du genre, de l'origine, etc., de la discipline qui pratique, est invité à soumettre des dossiers. Et puis après, c'est vraiment le comité qui passe en revue toutes les propositions et qui fait sa programmation.
Moment clé et temps fort.
Les temps forts, effectivement, dans l'année, puis des temps aussi hors les murs de la centrale. Tous les deux ans, il y a par exemple le festival Viva, qui est un festival de performance. Puis en fait, c'est ça, la centrale était à l'initiative de ce festival de performance. Puis il y a comme une histoire assez importante, historiquement, de la centrale et de la performance. Puis on essaye de renouveler ça par la programmation et en l'occurrence par le festival Viva, donc qui se passe hors les murs en fait, hors de la centrale. Il y a aussi des événements ponctuels à la centrale. Et puis aussi, comme je le disais tout à l'heure, de participer aussi à des événements culturels hors les murs, dont Pop Montréal, qui est un festival de musique, ou des choses comme ça. Donc ça, c'est des événements, enfin des On inclut la programmation de la centrale de manière récurrente tous les ans dans ce type de manifestation. Puis après, dans les événements forts, bah, ça dépend aussi du comité de programmation et du choix fait, en fait, en fonction des années de programmation. Mais je ne sais pas si on pourrait comme parler d'événements particuliers. Bon, et puis il y a le projet de publication qui va sortir dans pas long. En fait, il y a une publication à peu près tous les 10 ans et qui met en perspective, en fait, 10 années de programmation en parallèle avec les problématiques clés liées à l'actualité du féminisme et des théories féministes et queer. Et là, la prochaine publication va sortir dans pas très longtemps, dans quelques mois, donc qui s'appelle Féminisme électrique. Et donc ça, c'est comme un des temps vraiment forts de la centrale, parce que c'est une publication, c'est beaucoup de travail, puis ça reflète aussi la volonté de la centrale d'avoir un regard attentif à l'archive, puis à l'archive des productions, à faire appel aussi aux théoriciennes et aux artistes, et puis c'est ça. Puis chaque publication, ça donne comme ça un temps tous les 10 ans de regard sur une mise en perspective de 10 années de programmation. Puis ça, c'est comme un moment assez important. C'est ça, c'est tous les 10 ans parce que c'est beaucoup de travail, puis c'est beaucoup d'argent aussi. Mais c'est ça, c'est un des moments clés de la centrale.
Place de la centrale dans la ville.
La centrale, elle est sur un boulevard très passant. C'est un des boulevards avec plein de magasins, puis c'est hyper passant. Donc, puis ça, c'était une volonté de la part de la centrale, du CA, au moment où il y a eu le déménagement, d'aller sur une rue passante en vitrine pour que ça soit vraiment comme un accès super simple où les gens passent par hasard puis rentrent parce que bah, ils voient que c'est ouvert et puis que c'est une galerie, donc pourquoi pas rentrer. Donc ça, c'était vraiment une volonté de rendre accessible la centrale. Donc le public, effectivement, est volontairement très, très, très varié. Puis c'est pas un public d'initiés seulement. C'est sûr que ça, concrètement, ça a pu faire que évoluer le public, parce que c'est pas forcément un coin où il y a que des galeries d'art non plus. Et c'est ça. À côté, il y a des shops et puis c'est un boulevard très passant. Donc ça c'était une volonté première de choisir l'endroit où aller situer la centrale. À la différence du Belgo, qui est comme un building avec des galeries. Donc là, tu vas voir des expos, puis tu sais à peu près à quoi t'attendre.
En fait, c'est ce qui caractérise la centrale, c'est vraiment en partie la vitrine. Puis, disons, même quand on n'a pas d'expo, il y a des installations dans la vitrine. C'est quelque chose, c'est vraiment, comme tu as dit, une volonté de s'intégrer. Ben, puis, il y a aussi quand même eu des initiatives pour faire des liens avec le quartier. Je ne sais pas où ça en est en ce moment, mais...
Ben, ça en est toujours avec les ventes trottoirs, qui est comme un événement qui a lieu tous les étés, 2 fois par été. Puis les ventes trottoirs, c'est des ventes sur la rue, en fait, où les commerçants ont un espace dans la rue, puis la rue devient passante. On invite généralement des femmes qui ont une production artisanale de différentes formes, et puis aussi des performances. Puis là, ça vient vraiment en interaction avec un espèce d'événement de rue populaire, où là, t'as je sais pas combien de milliers de personnes qui passent. Puis c'est ça, profiter de ce différents types d'événements dans la rue ou d'événements communautaires pour y inclure des productions. Puis là, on essaye évidemment que ce soit comme aussi en accord avec le public, pas forcément choisir les trucs les plus virulents, mais donner comme toujours une place à des performances de qualité, puis avec en accord avec le mandat, mais en essayant toujours de s'adapter à l'événement. Là, en l'occurrence, un événement hyper populaire puis commerçant à la base.
Place de la centrale dans le milieu artistique.
Comme la centrale, c'est un des premiers centres d'artistes, du coup, il y a un espèce de respect de l'histoire de la centrale, et puis du coup, une crédibilité, parce que c'est ça. Ça fait 40 ans que ça tient. Donc, du coup, on n'a pas à prouver notre raison d'être. Et qu'il y a une belle programmation hyper dense de cette exposition, plus des événements qui viennent s'ajouter à ça. Donc, du coup, il y a comme, je pense, un respect de nos collègues. Il y a comme une reconnaissance de la centrale et de son histoire qui est là. Et je sens pas forcément de regard suspicieux sur un mandat féministe. Et s'il y en a un, en tout cas, je le sens pas. Enfin, moi, en tant que travailleuse. C'est pas une stigmatisation de passer à la centrale. J'ai jamais senti de réticence d'une artiste à montrer son travail à la centrale. Que ce soit une artiste de la relève ou une artiste qui a un parcours un peu plus conséquent, ou ouais, c'est ça, pour une expo de maîtrise, ça n'a jamais été une question, c'est plus un privilège de montrer son travail à la centrale.
Je pense qu'il y a plein de gens du milieu qui passent à la galerie sans nécessairement se mettre en mode bon, je vais voir de l'art qui est engagé ou je vais voir de l'art féministe. Je pense que ça peut être perçu, comme je disais, la plupart des expositions peuvent être prises simplement au niveau artistique sans nécessité de remise en question.
Place de la centrale dans la communauté queer féministe.
La plupart des expositions, c'est pas comme si le féminisme allait te sauter au visage quand t'entres dans la galerie. C'est sensibilité, puis c'est tout est dans la démarche, puis pas nécessairement dans le produit, puis dans l'exécution. Mais je pense qu'en créant ces événements-là parallèles, en faisant des liens avec la communauté, c'est là que les gens vont vraiment voir que oui, ça peut avoir un impact. Puis oui, il y a des idées qui sont vraiment similaires, qui sont juste exprimées de façon différente. Il y a quand même un désir aussi de s'intégrer dans la communauté, puis de faire avancer ces réflexions-là au-delà du milieu qui est purement artistique. C'est pas... oui, évidemment, il y a des préoccupations qui sont esthétiques. Pas esthétiques nécessairement, mais qui touchent vraiment à l'art, mais je pense que c'est... De plus en plus, on va aller toucher un peu au discours politique et au discours militant, justement. On essaie de s'associer à d'autres organismes féministes. Et puis d'amener aussi ces gens-là qui ont une approche féministe, qui ont une démarche, qui ont une pratique militante, à s'intéresser à ce qu'on présente, puis à ne pas voir ça justement comme quelque chose qui fait partie uniquement du domaine de l'art. Je pense que ça pourrait être intéressant. Ben, on discutait aussi de la possibilité d'organiser genre un symposium sur les questions d'art, de féminisme, de militantisme, les questions queer, tout ça, pour que la centrale prenne vraiment un rôle. Parce que oui, c'est le seul centre d'artistes féministes à Montréal, mais je pense qu'il y aurait moyen de rassembler d'autres. Il y a beaucoup d'organisations, de collectifs, de coopératives, tout ça, qui sont près du mandat de la centrale et qu'on pourrait rassembler, puis avoir une visibilité vraiment accrue si on s'unissait là-dedans.
Interview et prise de son réalisée par LOL, Charlotte, Marie et Jules. Montage de Jules. Jingle composé par Jojo. Commentaires de Jules. Merci à toutes et merci à Florence Larose et Virginie Jourdain pour leur participation.